enregistré pour Delmark Records et qui le mois prochain va prendre ses 92 ans. Et oui, il continue à œuvrer pour le blues et à le faire notamment chaque samedi soir. Alors pour nous, c'est 21h. Si vous allez sur Facebook et que vous tapez Jimmy Johnson, vous allez tomber sur sa page perso. Et donc, il y a des gens autour de lui qui s'occupent de mettre en ligne un petit concert qui dure une heure et demie, parfois deux, que ce soit à la guitare, au chant, bien sûr, ou même au piano, parce que Monsieur Jimmy Johnson est également pianiste. On s'en rend compte sur l'un des titres de ce tout nouvel album qu'il partage avec pas mal de gens comme Rico McFarland ou Roosevelt Purifoy. Ce disque qui s'appelle Every Day of Your Life, en voici un nouvel extrait avec My Ring, Jimmy Johnson. Johnson, l'immortel Jimmy Johnson, l'album Every Day of Your Life. Je me souviens encore du premier passage de Jimmy Johnson en France. C'était en 1984. C'était un jeune homme de 56 ans et il est toujours là. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est le disque du mois pour Sweet Home Chicago. Après, le morceau qui vient de Benoît Blueboy qui s'appelle Résolument Bleu. On aura Benoît Billot, Benoît Blueboy au téléphone. Le triple B dans le triple 6, ce sera dans quelques secondes, juste après. Résolument Bleu, le titre album.
J'ai mon cœur entre les mains, tu lui déverses ce que tu voulais. J'ai mis mon cœur entre les mains, tu lui déverses ce que tu voulais. Tu devrais pas t'en servir comme ça, c'est fragile, c'est pas un jouet. Si un jour tu veux revenir, dis-toi que je serai plus jamais le même. Et si un jour tu veux revenir, dis-toi que je serai plus jamais le même. Ça sera pas si facile qu'avant, mais je suis prêt à tout pour que tu reviennes. On m'avait pourtant prévenu, nous devons jouer un jeu dangereux. La première fois j'ai tout perdu, la deuxième c'était pas mieux. Ah, j'ai mis mon cœur en soi, c'est mort, tu faisais faire ce que tu voulais. Tu devrais pas t'en servir comme ça, c'est fragile, c'est pas un jouet.
Benoît Blueboy avec l'album Résolument Bleu, un album qui va sortir dans les jours à venir. Je suis au téléphone avec Benoît. Bonjour Benoît.
Salut Marc.
Très très grand plaisir de te recevoir à nouveau dans l'émission. La dernière fois c'était pour la millième, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu étais venu en faire un autre.
Oui, j'étais même venu.
Mais oui, carrément. C'était en janvier 2017, ça fait donc un peu plus de 3 ans.
Ah ouais, quand même.
Ben oui, oui, oui. Le temps passe.
Ça passe vite. Hein.
Ben, bien sûr, le temps passe à une vitesse folle. Et on a déjà un 16e album du Gars Bleu. C'est ça, un 16e album, je ne me trompe pas.
17e.
Oh, putain.
Sans compter ceux que j'ai produits d'autres gens, mais c'est le 17. Ça y est, 17.
Purée. Alors, Benoît Blueboy et les Tortilleurs, bien sûr, parce que Benoît Blueboy sans les Tortilleurs, c'est comme Jacob sans de la fond, hein, on est d'accord.
Voilà.
Résolument Bleu, j'ai une première question concernant l'album. Qui a trouvé ce titre?
C'est un titre que j'ai écrit avec Stevie Verbeck pour son premier album.
Pour son premier album à Stevie,
il y a des années.
Ouais.
Et comme j'avais envie de le refaire depuis un bon moment, j'ai fait, bon, allez, ce coup-là, on le fait. Voilà.
D'accord, et ça veut dire qu'il n'était pas sorti à l'époque avec Steve?
Si, il est sorti à l'époque. Si, il est sorti. Il est sur le premier disque de Stevie.
Ah ben, tu vois, j'avais pas souvenir de ça. Et donc, il s'appelle Raisonnement Bleu, mais c'est pas le seul morceau dont tu partages la paternité avec Steve, parce qu'il y a également Juste une cigarette. Il t'a donné un petit coup de pouce pour cet album particulièrement, ou c'est une collaboration qui dure depuis longtemps avec le fils de Patrick?
Ça dure depuis très très longtemps avec Stevie, si tu veux. Donc, on a des paquets de morceaux. À chaque fois qu'il faisait un album, on travaillait tous les deux dessus. Donc, on en a. Donc, ces deux-là, j'avais envie de les refaire.
Alors, Benoît, je pense aux auditeurs qui ont passé les 50 dernières années sur la planète Mars. Je sais qu'il y en a quelques millions et qui ne connaîtraient pas ton parcours. On va quand même rappeler que tu as passé pratiquement toutes les années 70 aux États-Unis, je crois. Hein.
Oui, une bonne partie.
Une bonne partie. Et puis ensuite, il y a eu une espèce de comme ça de blues boom du blues et du rock en France. On est vers la fin des années 70. Tu signes ton premier album en 1979. Ça reste historique. C'est grâce à l'éditeur de Dutron, Jacques Wolfson.
Donc, oui, oui.
C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait téléphone, il y avait Trust. On écoutait Star Shooter. Et puis et puis on a découvert Benoît Blue Boy avec Patrick Verbeek, avec Paul Persson. C'est un petit peu au même moment que vous êtes tous arrivés sur la scène.
Oui, oui, je suis arrivé à signer chez Vogue grâce à Wolfson et surtout grâce à téléphone, parce qu'en fait c'est la première depuis des années j'avais un album fait, je l'avais déjà enregistré même avant et personne ne voulait sortir un album de blues en français.
Ouais.
Mais le fait que téléphone est arrivé et que ça faisait bien Rolling Stone, ça a été beaucoup plus facile de signer.
C'est ça, les téléphones qui sont arrivés en 76-77 ont vraiment cassé la baraque avec les diaphones. Et ensuite, ça a été... voilà. Est-ce que c'est une époque... On va pas retracer toutes ces 40 années de carrière, Benoît, ensemble, parce que on y passerait...
Sinon, on va faire plusieurs émissions.
C'est ça. Bon, on pourrait, hein, remarque. Mais je voulais juste savoir quand même, c'est pour toi...
J'en ai des histoires à raconter sur toute cette époque-là aussi.
Ah ben écoute, vas-y, si tu as des anecdotes sur Jean-Louis Aubert, par exemple, vas-y, ne te prive pas. Je voulais savoir, c'était une époque pour laquelle tu avais une tendresse, une nostalgie, ou si pour toi c'était juste un moment comme ça dans ta vie de musicien ?
Oh non, on a toujours la nostalgie des trucs qu'on a fait en premier. Enfin, tu vois, là j'étais arrivé à faire ce disque de blues en français, à le sortir. Tu vois, donc pour moi c'est un espèce de souvenir agréable, ou c'est la première fois que tu t'entends à la radio aussi, enfin, tu vois, ces trucs-là.
Alors, on entendait à la radio des trucs comme ça. Attends, ça donne.
Ouais. Angela.
Alors ça, c'est extrait du premier album, Angela.
C'est extrait du premier,
oui. Ah. On va en écouter un petit peu, si tu permets. Bah écoute, ça n'a pas pris une ride, ça, Benoît.
Non.
Franchement, on est toujours sur les trois accords, 12 mesures, et puis ça tourne, ça glisse, ça tortille, à qui mieux mieux. Tout l'album était comme ça, et puis les albums qu'on suivit, voilà, il y a eu énormément d'instrumentistes, de musiciens qui ont participé à tous tes disques. Est-ce que, on va parler des guitaristes essentiellement, est-ce que ces gens ont laissé une trace pour toi? Est-ce que tu gardes une certaine nostalgie d'avoir joué avec tel ou tel guitariste particulièrement?
Enfin, surtout Patrick Verbeek, si tu veux, parce que tous les deux, on a joué pendant des années en duo. Donc c'est celui dont je suis le plus proche, on va dire.
Vous voyez toujours, vous continuez à...
Tout le temps.
Ouais.
Et je joue à son fils tous les deux jours, et qui habite pas loin de chez moi, et j'ai Patrick au téléphone régulièrement.
Tu sais que Patrick, tu le sais mieux que tout le monde, il remonte son affaire, parce que là...
Oui.
Ah, il a fait quelques dates avec notamment les Wish Doctors, qui sont de la région.
Oui, il m'a dit, oui.
Voilà. Et puis, exactement.
Il est retourné à la maison.
Et puis voilà, Patrick, ça va de mieux en mieux. Bah, voilà, c'est le genre de nouvelles qui te fait plaisir, j'imagine.
Oui, vraiment. Non, je suis content à chaque fois de le voir revenir et rattaquer.
Les mousquetaires du blues que vous étiez, Benoît, donc Patrick Verbeek, Paul Persson, est-ce qu'on peut également y associer des gens comme Jean-Jacques Milteau, Bill de Rheim, ou est-ce que c'est pas la même, le même cercle d'amis?
Bien sûr qu'on peut les associer, mais je connais moins Bill que Paul et Patrick, où on est potes tous les trois depuis des années et des années. Quoi. Mmh.
Et donc, qu'est-ce que tu as eu comme regard, j'allais dire, à l'espèce de gloire fulgurante qu'a eu un garçon comme Paul Personne, quand notamment, par exemple, en 93, il a pu faire le Parc des Princes avec Johnny, quand il a rempli les Zéniths complets, quand en 2003, il avait joué juste après vous, quand vous aviez joué, je me souviens, c'était sur Cahors, au Cahors Blues Festival, Paul Personne, et juste avant, c'était Benoît Blouboy et Patrick Verbeek, c'était la grosse soirée. Quel regard tu as sur sa carrière à lui, à Paul, à Paulo ?
Ah, il a fait exactement ce qu'il voulait. Hein. Pour moi, c'est ça. Si tu veux, il voulait faire ça, donc il a fait ça. Moi, ça n'a jamais été un grand truc pour moi, le côté star du blues en France. Pour moi, ça n'existe pas. Donc, je suis content qu'il, lui, soit arrivé à le faire à la manière comme il voulait. Quoi.
Est-ce que on pourrait être qualifié comme bluesman gaulois ?
Oui.
Ouais.
Oui,
Benoît, l'irréductible Benoît Blouboy, qui d'album en album reste un petit peu dans ses pas ses retranchements bien sûr, mais j'allais dire dans ses bottes, droit dans ses bottes, et puis toujours avec ce son un petit peu swamp blues qui te caractérise. Est-ce qu'un garçon comme Stan Nobar Pacha, avec qui tu joues depuis longtemps, est étranger à ce genre d'attitude?
Non, Stan, j'ai joué avec lui depuis maintenant 30 ans.
30 ans, carrément.
Ouais, je crois que j'ai joué avec lui depuis 90, 91, un truc comme ça.
D'accord.
Donc ça fait quand même des années. Donc je suis... Ben, ça étonne tout le monde. Tu vois, quand on a fait le disque, Nico, il nous regardait jouer tous les deux ensemble. Et même les autres autour, ils disaient, mais comment vous faites pour vous entendre alors que tu vois aussi bien que ça? Mais c'est vrai que ça fait 30 ans qu'on joue ensemble sur les scènes.
Nico Duportal, qui est arrivé assez récemment dans ta vie musicale, notamment pour l'album précédent, qui réalise ce disque qui s'appelle Résolument Bleu. Comment est-ce que vous êtes rencontré avec Nico?
Je suis allé le voir parce qu'il jouait... Il jouait depuis un moment avec Thibaut Chopin, qui est le bassiste qui a joué dans les Tortilleurs pendant de nombreuses années. Et il jouait dans Paris, dans les clubs et tout. Donc je suis allé le voir. Et on est devenus potes.
Dans les caves, j'imagine.
Oui, je dis les caves de Saint-Germain. Enfin, ouais. Tu vois, les clubs dans Paris, souvent, c'est les caves.
C'est ça.
Donc, et je suis devenu pote. On est potes.
Et donc, comment est-ce qu'il en est arrivé à réaliser ton disque, en fait?
Ah, parce qu'on avait fait celui d'avant et j'avais qui était un espèce d'hommage, en fait,
Saint-Germain, ouais.
Et là, je voulais qu'il le produise, quoi. Je voulais que Nico, il s'occupe du disque, tu vois. Donc, ça a été facile à faire, quoi.
Oui, parce que on travaille facilement avec Nico, comme on travaille avec Stan. Il y a une espèce comme ça d'osmose qui se crée.
C'est pas du tout la même chose.
Non.
Stan, il est avec moi depuis des années, donc il sait comment je vais jouer, il sait ce que je vais faire. Il va pas rajouter, si tu veux, plus que ce qu'on fait tous les deux. Nico, là, il avait envie de réaliser l'album. Donc c'est pas du tout la même manière de voir les choses.
Et ils sont tous les deux à la guitare sur ce disque.
Oui, et ils s'entendent tous les deux comme des larrons en foire, on dit.
Il est arrivé avec des musiciens, Nico. Il est pas arrivé tout seul.
Non, c'est moi qui ai choisi les musiciens.
C'est
les musiciens avec qui on jouait déjà avec Nico. On avait commencé déjà à jouer et je voulais absolument jouer avec son batteur et jouer avec Alex qui est son saxophone baryton d'habitude.
Ouais.
Et j'avais envie qu'il joue de la basse. Donc je lui ai demandé si tu joues de la basse, il m'a dit ouais.
Excellent. Donc Alexis Bertin...
Donc il a acheté une basse et il est venu jouer.
Carrément. Il s'est improvisé bassiste. Bon, il savait jouer un petit peu quand même, j'imagine.
C'est un musicien. C'est vraiment un véritable musicien.
Voilà.
Le disque, il a tout fait. Il a fait les orgues, il a fait les saxophones, il a fait la basse. Enfin, tu vois, il nous a...
Et il a fait les chœurs aussi.
Ah bah oui, ça aussi. Oui.
Mais tout le monde fait des chœurs dans les Tortilleurs, j'ai l'impression.
En général, oui. Il y a un moment où, comme tout le monde gueule, il y a un moment où il faut gueuler. Quoi.
Alors, il y a d'autres gens qui se sont greffés à l'aventure. Donc, on a dit Pascal Moutier à la batterie ou percussion au chœur. Et puis également Beau Weevil, hein, Mathieu, Promont.
Il est venu au studio.
Ouais.
Il est venu au studio avec sa femme, pas spécialement pour nous voir. Il ne savait même pas qu'on était là, d'ailleurs. Il venait pour prendre des dates parce qu'il avait envie. Du coup, il a passé la journée avec nous.
Hein,
et quand on a eu des chœurs à faire sur un morceau, on lui a dit Mathieu. Et donc, il est venu faire les chœurs.
Et dis-moi, les frères Jazz, Elmore, Jimmy Jazz...
Bah, les frères Jazz, ils avaient mes potes, et puis ils habitent pas loin, tu vois, ils sont à Quimper, et le studio était entre Nantes et Quimper. Donc, ils étaient trop contents de venir passer 4 jours avec nous.
Pourquoi enregistrer en Bretagne, Benoît? Pourquoi il n'y a pas suffisamment de bons studios sur Paris, ou tu avais besoin d'une atmosphère particulière?
J'aime bien sortir de Paris quand j'enregistre.
Ouais.
Et là, le studio était super et on était on pouvait rester sur place. Tu vois, on pouvait se faire à manger, dormir là, donc c'était beaucoup plus facile que dans Paris. Dans Paris, automatiquement, tu sors du studio, tu rentres chez toi, t'as la lettre de je sais pas quoi qui est arrivée, qui te plaît pas. Enfin, toi, il y a toujours un truc qui t'emmerde. Alors que quand t'es coincé en Bretagne dans un super truc, tu fais bon, bah ça va. Et le studio était super. J'étais allé voir ce studio où je suis allé faire une séance pour les Flying Saucers.
D'accord.
Donc j'ai joué un coup sur le truc, j'avais vu le studio, j'ai fait oh, c'est bien ce studio. Toi. Ouais, ouais. Et puis c'est tranquille. Voilà. Et il y a un bon ingénieur et le studio est super.
Bon, quand on habite Paris, voilà, on a besoin de se. Hein, c'est des moments où on a besoin de se ressourcer, de se concentrer et puis pas se dire tiens, il faut que je tourne le disque toutes les deux heures ou remettre des pièces dans le parquet.
Non.
C'est pas possible.
Moi j'aime bien. Comme ma manière d'enregistrer est totalement improvisée, j'ai besoin d'être à un endroit où on n'est pas disturbé, on n'est pas gêné par d'autres choses autour.
Voilà.
Donc en général, je prends des gens avec qui je m'entends hyper bien.
Ça me rappelle ce que tu m'avais dit à une interview, lors d'une interview qu'on avait faite ensemble au Havre, je crois que c'était vers 2003, où tu m'avais dit, moi je répète pas, le blues c'est une émotion, donc on peut pas répéter une émotion. Tu continues à rester sur cette
idée-là. Oui, bien sûr, on n'a pas répété avant de faire l'album, absolument pas. On n'a pas répété. Si Nico et Stan sont passés à la maison une après-midi et je leur ai montré les morceaux, tu vois, et je leur ai montré sur ma guitare ce que je voulais entendre, le riff que je voulais, machin. Et après, on a enregistré ça et Nico s'est débrouillé avec, tu vois,
voilà. Voilà, et pas forcément de répétition après le.
Non, on n'a pas répété. On n'a absolument pas répété, quoi.
Il y a des mots que Christian Casoni signe, qui sont repris d'ailleurs dans la pochette interne de ton disque, qui a un très beau format 45 tours, d'ailleurs, je trouve, une fois qu'on déplie. je voudrais juste lire les premières lignes, Benoît, puis on va réagir dessus après, si tu veux bien.
Oui.
Alors, il parle de toi. Quand il sent l'heure venue d'enregistrer un album, Benoît ne grignote pas son crayon devant une feuille blanche. Il est la feuille blanche. Il se chante dans des brouillons mentaux. Si une phrase ne passe pas l'oral, il s'en chante une autre. Il s'en est toujours débrouillé seul, ayant compris dès le départ que les maisons de disques ne le laisseraient jamais enregistrer du blues en français. Son style unique et fluide, cette chaloupe transatlantique franco-louisianaise, est un exsuda biologique causé par tous ses aléas. C'est un peu comme avoir les yeux bleus au chaussée du 44, et ça date pas d'hier. Moi, je trouve, en dehors du fait que c'est excellemment bien écrit, je trouve que ça traduit exactement ce que je vois de toi, en tout cas.
Oui, c'est vrai. Et il démarre par le truc qui est vrai. Je suis totalement dyslexique, donc j'écris pas.
Oui, c'est ça.
Ah, donc, ouais. Si tu veux, je chante mes morceaux. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi une manière de chanter. J'écris mes morceaux, c'est avec la guitare, en les chantant.
Et donc, il n'y a pas de partition, on ne peut pas trouver en magasin de musique des partitions.
Non, j'écris même pas les textes. Tu vois, c'est vrai. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui les écrit pour que je puisse les lire. Lire, ça ne me dérange pas, mais compter et écrire, non.
Par contre, j'ai cru comprendre que tu étais dyslexique en français, mais pas en anglais. C'est extraordinaire, ça.
C'est assez bizarre, moi non plus. Ma mère était anglaise.
Oui.
Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que l'anglais est beaucoup plus facile que le français.
Ah, c'est clair, oui.
Et qu'il y a beaucoup moins de règles, tu vois, quand tu écris que dans le français.
Ouais. Je confirme, effectivement. Un album dans lequel interviennent tout un tas de gens et puis qui reste du Benoît Blueboy avec quelques collaborations. On a cité tout à l'heure Steve Verbeck pour deux titres. Et puis également des gens que je ne connais pas qui signent un titre qu'on va écouter tout à l'heure d'ailleurs qui s'appelle Ma petite amie est vache. Monsieur Guiton et Claude Vendre de Maîtrise.
Je ne sais pas ce que c'est que ce morceau, alors je vais t'expliquer.
Et, vas-y.
Ce morceau a été enregistré en 1961 par le groupe célèbre de Nice qui sont montés à Paris et qui s'appelaient les Wildcats,
ouais,
et qui sont devenus les Chats Sauvages.
Très bien.
Et c'est le premier morceau qu'ils ont enregistré.
Est-ce qu'on peut l'écouter, ce morceau-là?
Oui, mais je ne l'ai pas joué comme eux. Hein. Tu vois, j'ai transformé en Benoît Blueboy.
Ah ben, bien sûr. On va en écouter un petit extrait.
D'accord.
Et on se retrouve juste derrière. Un titre qu'on écoutera en entier un petit peu plus tard dans l'émission. Et Benoît, je ne résiste pas à faire écouter ça aux gens, du coup.
Si jamais il pas, je ne vous dis que ça. Si jamais il pas, je ne vous dis que ça.
C'est quelque chose que tu continues à écouter, les chats sauvages, notamment.
C'est le premier morceau qui m'a frappé, tu vois, quand on était gamin.
Ouais.
Il s'est sorti en 61, et je me souviens, j'ai vu les chats sauvages, moi, plein de fois. Hein, tu vois, j'allais les voir jouer. C'était impressionnant, c'est drôle pour nous d'aller voir ça. Oui, ça m'a, ce morceau-là spécialement m'a frappé. En fait, c'est un morceau qui s'appelait Mean Woman Blues et qui a été écrit par Demetrius et qui était un truc qui était chanté par Elvis Presley.
D'accord, voilà, donc qui a été
faire
emprunté.
Le tour de l'histoire.
et on boucle la boucle avec Benoît qui reprend ça en 2020. Voilà. Excellent. Voilà, mais tu réponds à mon interrogation. C'est vrai que j'avais pas forcément poussé le bouchon et j'aurais pu trouver tout seul.
Non, mais ce morceau-là, moi, je le connaissais bien, alors je peux te raconter tout.
Alors, ça justement, c'est un petit peu un paradoxe chez toi, parce que, outre ton naturel, ta sincérité légendaire, ta simplicité, il y a également ta culture musicale qui transparaît tout le temps. Et pourtant, tu dis que le blues, c'est une musique d'ignorants. Et plus t'es ignorant dans ce groupe, dans ce genre de musique, plus t'es fort.
Ouais, quand je parle d'ignorant, je parle de la manière de jouer d'un instrument.
D'accord, voilà.
Tu vois, pour moi, et quand je dis ignorant, c'est pas péjoratif. C'est le truc du blues pour moi, c'est comment faire sonner ta guitare ou ton armo, machin, de façon à ce que ça sonne plus gros que normal. Ouais. Donc dans ces cas-là, t'es obligé de jouer des accords d'une manière, t'es obligé de laisser des cordes à vide, tu cherches tout le temps un système pour que ça sonne autrement que plus gros que tu peux faire. C'est-à-dire que si t'es pas un spécialiste de la guitare, et tu peux arriver à jouer monstrueusement, comme Johnny Hooker ou des gens comme ça, tu vois, où tu fais ces musiques d'ignorants, quoi. Je veux dire, quand t'écoutes, tu fais, ah ouais, mec, il sait pas jouer, quoi.
Ou comme Eddie Van Halen, par exemple.
Oui, non, ça c'est un autre truc. Non, c'est autre chose. Van Halen, c'est un guitariste. Mais je confonds jamais non plus les mecs qui jouent les blues et on va dire les guitaristes de blues et les guitareux. Pour moi, il y a les guitareux et les guitaristes de blues.
C'est quoi la différence, Benoît ?
C'est le guitariste de blues, quand il a une note à jouer, elle part de sa tête, elle va jusque dans son bras et jusque dans son doigt. Quand c'est un guitareux, pour moi, c'est les doigts qui jouent.
D'accord, et ça veut dire que c'est surtout physique, c'est pas tellement mental.
C'est
et,
technique, non, c'est pas mental, ouais, c'est tout, technique. C'est technique. Tu vois, je veux dire, donc tu vois les doigts bouger, quoi, vite, tu vois, ou bouger. C'est un truc de. On a l'impression que les mecs ont répété tout le temps, quoi.
Ouais, d'accord, donc ça veut dire que c'est le fruit d'heures et d'heures de travail et pas
ouais,
forcément.
Bien sûr, ouais. J'ai rien contre, hein, je trouve ça super, hein, tu vois, c'est une autre manière de voir les choses. Hein.
On parlait.
J'ai vu ça aussi à travers toi, j'ai beaucoup bougé, je me suis installé en Inde pendant un moment, machin.
Oui.
Et t'as la même réflexion en Inde sur les musiciens, où ils disent non, là, le mec, où il fait du chant, où il te montre ce qu'il peut faire avec ses doigts.
Tu t'es installé en Inde il y a quelques années, tu as même fait un album qui a été fortement inspiré de ce pays-là. Tu t'es installé également au Maroc.
Aussi, oui, aussi.
Tu as retrouvé le même genre de choses.
Non, c'est un pays de touristes, le Maroc. C'est magnifique, hein, mais je veux dire, c'est un pays de touristes.
C'est un pays dans lequel il y a quand même des musiciens.
Ah,
pas beaucoup. Non, t'en as pas vu.
Pas beaucoup.
D'accord.
Tu dis, ou peut-être au-dessus à Tanger, où les gens font une espèce de musique hispano-arabe, tu vois, je veux dire, qui est. Mais quand tu arrives au Maroc, quand tu arrives à Marrakech, et dans le désert, musique.
Il vaut mieux pas.
J'ai pas entendu de trucs extraordinaires, quoi. J'ai vu les musiciens, mais pas de trucs. Frappant, quoi.
Si on revient quelques années en arrière et puis tout au long de ta carrière, tu as rencontré des musiciens fabuleux avec qui tu as pu te produire. Je voudrais qu'on joue à un tout petit jeu, si tu veux bien, Benoît.
Ouais.
Je vais te donner une liste de musiciens. Rassure-toi, elle est assez courte. Et puis peut-être en quelques adjectifs ou quelques mots ou des phrases à ta façon, tu nous parles de ces musiciens et de ce qui te lie à eux. Tu veux bien ?
Ok.
Big J. McNally, d'abord, le saxophoniste.
Pour moi, c'est vraiment les rois du rock'n'roll saxophone ténor, quoi, qui était l'instrument de rock'n'roll pendant des années et des années avant que les guitares arrivent et que les harmons électriques arrivent. Quoi.
Avant que T-Bone Walker ne fasse parler de lui davantage, peut-être.
Aussi, voilà, ils étaient déjà là, eux, ouais. C'était eux qui étaient devant et qui faisaient les chorus et qui se roulaient par terre et qui jouaient. C'était l'instrument, c'est le ténor.
Lazy Lester.
Ouais, c'est mon pote, qui est plus là d'ailleurs. Après, ouais. C'est. J'ai appris à jouer en écoutant les Gilles et que les premières fois que je suis parti aux États-Unis, je l'ai cherché partout en Louisiane, j'arrivais pas à le trouver à cette époque. À cette époque-là, il vivait à Détroit et il était devenu chauffeur de camion.
Ah,
donc je l'ai rencontré beaucoup plus tard. C'est un type hyper stylé pour tout ce qu'il faisait. Sa manière de chanter, sa manière de jouer, c'est impressionnant.
Mmh. Et tu as enregistré un album avec lui?
Oui, oui, on a un album qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, mmh. qui s'appelle Yes Indeed et qui est sorti juste avant le confinement.
J'en profite pour poser une petite question annexe, les Ilesters étant harmonicistes, et c'est vrai que tu parles de guitare, hein, tu en parles aussi bien que tu étais guitariste, et tu es guitariste, donc pourquoi pas plus souvent de guitare dans les albums de Benoît Blue Boy sous tes doigts?
Des fois je fais des rythmiques, mais non, parce que ma manière est tellement... je joue accordé à vide, j'ai plein d'accords différents quand je joue, tu vois, je joue pas du tout normal.
D'accord.
Donc okay. Je montre, tu vois, à Stan ou au guitariste avec quelque chose que je veux, comment entendre, machin, ce qui est compliqué parce qu'ils sont obligés de faire des accords qui sont pas... Mais Stan, par exemple, s'il veut, est capable de jouer tout ce que je joue sur une guitare accordée autrement, quoi.
Donc tu délègues, c'est ça l'idée.
Oui, exactement. Oui. Parce que je le fais, tu vois, en studio, mais je sais pas faire sonner une guitare.
Comme le ferait un certain Stan.
Je suis pas guitariste, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Prendre un harmon, pour moi, c'est un truc, c'est un jeu, quoi. Tu vois, c'est rien du tout, c'est un truc normal. Je joue ce que j'ai envie, je répète pas avant, et hop, je joue. Guitare, je sais pas les faire sonner, quoi. Mmh.
Tu respires dans ton harmon comme tu respires dans la vie, en fait.
Exactement, mmh. Voilà.
On continue la liste, Benoît, si tu veux. J'ai un ami commun, Franck Goloisseur, Paris Slim.
C'est un cas, Franck, c'est un cas. Oh, mmh. C'est certainement un des meilleurs guitaristes de blues blanc qui est même actuellement aux États-Unis. Hein. C'est vraiment un cas. Tu vois. Il est parti aux États-Unis début 80. Et il s'est retrouvé à la tête de l'orchestre d'un club qui s'appelle le Ellis Club.
Ellis Club,
machin. Et c'est lui qui dirigeait l'orchestre. C'est-à-dire
ouais.
qu'il l'a accompagné.
Troisky et DJ Malone, notamment. Ouais.
Et il a appris à jouer. Hein.
Ouais, oh, bah, oui,
il est capable de t'imiter n'importe qui. Ce qui est à la fin un problème aux États-Unis, je trouve, de tous ces guitaristes qui sont toujours en train d'imiter quelqu'un. Quoi. J'arrive pas à entendre de musiciens américains qui jouent un truc à eux, ou très peu. Quoi, ça.
Ben, tu vois, on écoutait tout à l'heure, je sais pas si tu as pu écouter l'émission, mais le disque du mois en ce moment, c'est Jimmy Johnson, un garçon qui va fêter ses 92 ans bientôt. Alors lui, voilà, l'exemple.
Mais on peut pas dire que ce soit un petit guitariste de blues blanc, quoi.
Ah, ben non, c'est pas tout à fait la même chose. Mais lui, tu l'entends deux notes, tu sais que c'est lui, il n'y a pas de problème.
Ah ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est stylé, quoi. Tu vois, c'est les mecs qui choisissent. À longueur de temps, c'est ça que j'appelle même musique d'ignorant, moi, si tu veux, c'est que le mec, il choisit chaque note qu'il va jouer, quoi.
Ouais, ouais.
Et qu'à la fin, à force de choisir tes notes, t'as un style. T'as même plus besoin de les choisir, tu vois, ça devenu ton truc à toi, quoi.
Bah, comme toi, j'ai envie de dire, Benoît.
Ouais, c'est à la fin, je suis content d'être arrivé à ça avec un harmon, quoi.
Ben voilà, parce que des harmonicistes qu'on reconnaît pratiquement immédiatement, bon, il y en a pas non plus pléthore. Moi, je dirais tout stylement, tu vois, dans un
oui,
autre
oui,
genre,
oui,
complètement.
Oui, hein oui, 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 oui.
Alors, je voulais te parler de Freddy Roulette également. Que...
Ah ouais, ça...
Alors lui, Freddy Roulette, c'est spécial.
Ah non, c'est un cas aussi. Hein. C'est le roi du... C'est l'un des seuls mecs qui joue du style, en fait, tu vois. Dans le blues, il n'y en a pas eu beaucoup et qui joue aussi bien. Mais c'est un barge, c'est un fou total. Tu vois. Mais c'est un mec vraiment intéressant. J'ai jamais vu des gens jouer comme ça. Je l'avais croisé En fait, je l'avais vu en 70 à Los Angeles où il jouait dans l'orchestre de Charlie Musselwhite. Et j'étais allé le voir et je dis, oh putain, un jour, il faudrait que je fasse un disque avec ce mec.
Et des années après, tu l'as fait?
Eh oui, je l'ai fait.
Ah ouais.
Il y a un ou deux que j'ai pas arrivé à, tu vois, j'ai pas fait, j'aurais bien voulu faire des, mais bon, pratiquement, je suis arrivé à faire des disques où invité pratiquement les mecs vraiment qui m'ont le plus impressionné.
Le gars d'après dans la liste, c'est Randy Garibay.
Ouais, Randy, c'était le chanteur de blues du Texas, mexicain, qui chantait en espagnol, en anglais, et c'est un chanteur. C'était un grand imitateur de Bobby Blunt. Et je sais pas comment il faisait parce qu'il était mec comme un clou.
Ouais.
On l'avait, tu vois, c'était pas un mec de poids qui chante, tu vois, comme souvent les mecs qui ont des coffres, tu vois.
Il avait même gosier, c'est ça.
Ah ouais, vraiment, c'était un chanteur extraordinaire. Vraiment, ouais. Et il a fait, et c'était le chanteur de, tu vois, le chanteur hispano, on va dire mexicain, du Texas.
Et puis le dernier de la liste, on pourrait en égrener des dizaines, je pense, parce que tellement, tellement tu as fait de rencontres. Mais le garçon dont je voudrais te parler là, c'est Uncle John Turner. C'est un peu particulier là aussi.
Ouais, c'est mon pote aussi, ça. Mais l'oncle est rencontré ici surtout. C'était le batteur de Johnny Winter au début, pendant les premiers albums. C'était un des premiers batteurs de blues blanc qu'on ait vu. Il me racontait que quand ils ont commencé à jouer à Johnny Winter, quand ils se baladaient à travers les États-Unis, ils me disaient, mais on allait à San Francisco, ils regardaient les mecs jouer, on disait, mais ils savent pas jouer. L'oncle c'était un batteur de baloche, si tu veux, blues, tu vois, du Texas. Donc ils avaient une connaissance de cette musique extraordinaire, tu vois, vraiment.
Et cette culture musicale qui te caractérise,
de jouer, tu vois, une manière hyper simple de jouer, d'arriver à faire swinguer les trucs en jouant le plus simple possible, tu vois.
Ça, c'est quelque chose que tu continues à revendiquer, mais pas forcément à travailler, la simplicité dans le fait de jouer.
À force de le travailler, ça devient, tu n'y penses plus, quoi, ça devient un truc normal.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça se travaille. C'est vrai que ça se travaille, même quand tu es sur une guitare, au moment où tu vas faire un truc, jouer, tu fais je ne le fais pas.
B.B. King disait en conseil à des jeunes guitaristes là, qui étaient là, ne jouez pas une note qui ne soit pas indispensable. C'est un conseil que tu partagerais, Benoît ?
Oui, aussi. Hector Watt, le guitariste qui a joué sur l'album que j'ai fait à Austin, qui était un indien Apache et qui jouait blues, lui, à chaque fois, il me disait, c'est simple, à chaque fois que je vais faire un truc et je sais que c'est mes doigts qui vont jouer, j'enlève ma main.
Ah oui, d'accord.
Et l'autre fois, je ne sais plus où c'était, Stan venait d'acheter une nouvelle guitare, un truc, et on jouait, il était là, et il me dit, mais il vient de l'acheter la guitare. Je dis, ouais, il vient de l'acheter, il essaye, il fait. Et Hector, il me fait, ben ouais, moi quand j'achète une nouvelle guitare, je me mets un grand coup de poing dans le mur.
D'accord.
Ça m'évite de jouer vite.
Benoît, toi qui a vécu une moitié de 20e siècle et un premier 20% de 21e siècle, qui a déjà côtoyé tous ces gens-là et bien d'autres, quel regard est-ce que tu portes sur ce qu'est devenu le blues aujourd'hui en 2020 ?
Tu veux dire en général ou...
Oui, en général, oui, oui.
Pour moi, c'est chiant à dire, machin, c'est pas très agréable pour tout le monde, mais si tu veux, c'est une musique qui a perdu son côté afro. C'est une musique qui était afro-américaine et qui est juste une musique de musiciens blancs américains.
Même quand on écoute des gens comme Eric Bibb, par exemple.
Oui, je trouve qu'ils sont beaucoup plus proches de la musique blanche que de la musique afro. Il n'y a plus d'afro, à part de quelques mecs au Mississippi, tu vois, qui font toujours ça. Ils le font, mais pour moi, ils n'entendent pas. Tu vois, même des mecs super comme Gary Clark Jr. et tout ça, c'est blanc leur manière de jouer. Quoi, c'est beaucoup plus influencé par Jimmy Vaughan que par les musiciens blancs, quoi.
Une musique qui serait devenue trop polissée, à ton goût ?
Non, elle est devenue blanche, quoi. Je veux dire, elle a perdu son côté afro. Ça n'empêche pas, elle existe. C'est ça qui est super, si tu veux, c'est que cette musique continue à exister et continue à être jouée. Et ça, c'est jouer en France, c'est rempli maintenant de musiciens qui sont capables de jouer. Quand j'ai commencé, il n'y avait aucun musicien qui était capable de jouer du blues.
Quoi. Ouais, ça, c'est vrai.
Les mecs ne montaient même pas une corde sur une guitare, tu vois, c'était un truc...
Alors, est-ce qu'on peut dire que, voilà, pour revenir aux fameux mousquetaires que vous étiez avec Patrick et Paul, vous êtes un peu les pionniers du blues en France ?
Ah bah oui, avant, je veux dire, même avant moi, il y avait Berzon.
Il y avait Chris Lancry, peut-être, aussi ?
Oui, Chris, il a fait des trucs, mais pas sous son nom, et ça a été un merde, pas bon, par ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le disque est sorti sous le nom de quelqu'un d'autre, en Belgique, je sais qu'il y a eu un merdier, tu vois. Chris, il joue acoustique, quoi.
Et donc, voilà.
Qui n'était pas notre cas du tout, nous, tu vois. Avec Patrick, on jouait tous les deux, on jouait acoustique, c'est vrai, oui.
Mais il y avait plus de rock, en fait, dans votre musique. Il y avait l'effet, effectivement, au début de la discographie, on boucle un peu la boucle de l'interview.
Oui.
Les influences de ce qu'on entendait à l'époque à la radio. On parlait du groupe Téléphone tout à l'heure.
Oui, c'était rock. Et puis bon, t'avais les groupes anglais comme Feel Good et tout ça qui étaient là. Enfin, tu vois, qui poussaient le truc à jouer, quoi.
Ouais, toute la bande à Wicked Johnson, et effectivement.
Voilà, tous ces gens-là, et Nank Bilo Zero, et tout le truc pop rock. Ça va être tout le pop rock qui a vraiment poussé à jouer.
J'évoquais tout à l'heure Jean-Jacques Milteau. Est-ce qu'il y a d'autres harmonicistes français avec qui tu as du contact ou dont tu apprécies le travail? Juste quelques noms comme ça.
Ceux que je connais,
hein, connais.
Stevie, Elmer, qui joue avec
son frère
Jazz, et un mec que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Thomas Troussier, je crois.
Oui. Ah bah oui.
Qui joue à Nantes.
Ouais. Et qui vient de Caen, hein, qui vient de la région.
Je le trouve vraiment super.
Ah ouais.
Ouais. Tu vois, parce qu'il m'impressionne par sa manière de jouer acoustique, de pas en faire des paquets, et sa manière de jouer m'impressionne. C'est un des rares que j'entends ici et que je fais, toi, je vais le voir.
Ouais, c'est vrai, ouais. Très, très complémentaire dans son travail avec Arnaud Fradin, notamment, quand ils sont en duo.
Pour ce qu'ils font là, en ce moment, avec les reprises et les machins en anglais de blues, je trouve ça parfait. Hein. Mmh. Il aurait trouvé personne qui aurait pu jouer ça, tu vois, autrement. Hein.
Très bien. Ben voilà, donc le regard sur la
scène. Oui, il y en a d'autres. Hein. Il y a les mecs comme Paco Mikaelian et le hors concours, je l'appelle toujours hors concours, qui est Vincent Bûcher.
Oui, ouais. Très bien. Nico Wayne Toussaint également, qu'il faut
aussi,
citer.
Aussi, c'est vrai, ouais. Des fois, j'en oublie, hein, des fois.
Oh, ah ben oui, non mais c'est normal, il y en a tellement. Non mais, on n'aurait pas pu donner une liste comme ça dans les années 80, je veux dire, moi, j'ai commencé la radio grâce à Jacques Lang. Toi, tu as pu aussi diffuser ta musique un peu grâce aussi à cette arrivée de ferlement de culture au début des années 80.
Bien sûr, oui, c'est vrai.
Grâce à tout ça, il y a plein de gens qui se sont, qui sont sortis de l'ombre, finalement. Cette liste-là, on n'aurait pas pu la faire il y a 40 ans.
Non, absolument pas. Non.
Alors, est-ce que ça veut dire que plus il y a de musiciens, plus la qualité se dilue un petit peu, ou est-ce que tu as tendance à dire, comme d'autres que j'ai entendu le dire, que la qualité du blues français est en hausse?
Oui, bien sûr, évidemment, oui, ouais. Bien sûr. Si tu veux, par rapport, puisqu'il y a quand même des gens, il y a des boss, partout. Bon, en ce moment, on peut pas dire que ce soit qu'on arrête pas de jouer tous les jours.
Non, mais, voilà, c'est particulier.
Si, bien sûr, la qualité a monté, en fait, tu vois. Et puis, il y a quand même... avant, il n'y avait pas, si tu veux, même quand j'ai commencé à jouer avec Stan, il n'y avait pas 50 guitaristes qui jouaient en France. Tu vois, c'était... donc, maintenant, tout le monde se voit, tout le monde va se voir, tout le monde... tu vois, monde, mais comment t'as fait, comment tu joues ça, ça n'existait pas avant, il n'y avait personne pour te... Tu vas aller voir ou te demander, hein.
On citait les musiciens tout à l'heure, Benoît, qui figure sur cet album, dont son réalisateur Nico Duportal. Mais il y a également l'homme de l'ombre, qui s'appelle Denis Leblon, qui est avec toi depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qu'il fait pour toi, ce garçon, Benoît?
Denis, on travaille ensemble depuis le bop, j'essaie de compter les années, là. Je crois que c'est 89.
À 31 ans déjà?
Ouais,
collaboration.
Ouais.
Et donc, il est ton homme de main, il est ton producteur.
C'est mon manager, producteur, machin. Il fait tout, il s'occupe de tout. C'est le seul mec en qui j'ai confiance.
Ah ouais.
C'est toujours difficile, tu sais, quand t'es musicien et que t'as un groupe à tenir, les trucs de blé, tu vois, machin. C'est sans compter que moi, je suis là avec ma dyslexie, c'est pas un cadeau. Donc, c'est difficile d'avoir confiance en quelqu'un.
Donc, ça veut dire que tu fais aussi de la dyscalculie, finalement, Benoît, non?
Je fais de la quoi?
La dyscalculie avec les chiffres, je sais pas.
C'est... Ah, c'est ça, c'est mon dit. Ah, j'arriverai pas à le dire. Non, j'y arriverai pas.
Benoît, moi j'ai envie de te dire, continue comme ça. Jamais parfait, hein, c'est ce qui te caractérise. C'est ce qui nous caractérise tous, j'ai l'impression. Ça déplaît. Effectivement, oui. Pas facile de plaire à ma petite amie Eva, hein, finalement. Bon, tu restes résolument bleu, hein, toute ta vie. Si tu me demandes pas danser, je te dirais juste une cigarette. C'est normal parce qu'elle a pris un jour de congé, elle a rien d'autre à faire. Et puis je terminerai avec Millionnaire, tous ou presque. C'est un morceau que tu partages avec Pascal Mikaelian, que tu citais tout à l'heure.
Qui a écrit les trois quarts du morceau. Et un jour, j'étais arrivé, il jouait quelque part avec sa fille et son orchestre, machin, et j'ai vu attaquer ce morceau-là, j'ai fait, waouh, je suis monté tout de suite sur scène avec lui pour chanter les chœurs. Et il m'a dit, non, mais je l'ai écrit pour toi. J'ai dit, ah, super.
Dis-moi, s'il y avait un artiste, toujours en activité en 2021, on va dire, pour le prochain album, qui serait disponible et avec qui tu adorerais collaborer, ça serait lequel, ou ce serait lesquels, peut-être?
Écoute, alors là, à la minute, j'ai aucune idée. Je viens de finir celui-là et je suis absolument dans le trou, tu sais.
Toujours dans le jus,
entre
là.
Deux, dans le trou qui est entre les deux albums, où tu veux pas décider de ce que tu vas faire après parce que ça pourrait être autre chose.
Voilà. Même s'il y a un petit rêve comme ça, coincé dans un petit coin de ta tête.
Ouais, mais alors vraiment, je t'assure que à chaque fois, c'est le même truc. Tu sors d'un album, tu l'as fini, et là, tu restes pendant 4-5 mois, tu vois.
Ouais.
Qui est dans le trou de celui d'avant, quoi, voilà.
Alors, cet album, Résolument Bleu...
Si je décide un truc vraiment intéressant, je te dirai, j'appelle et je te dis,
bien,
je fais un album avec machin.
On fait ça, très bien. Résolument Bleu, c'est ce disque-là qui va sortir la semaine prochaine. Il n'est pas encore dans les bacs, mais ça ne va pas tarder. On peut déjà le précommander, j'imagine.
Oui, le trouver
sur toutes les plateformes, machin, les bons crémiers. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour dire aux gens, voilà, vous n'avez pas d'album de Bonhomme Blue Boy, achetez celui-là ou achetez c'est ton meilleur album, ça, ou pas forcément?
C'est le meilleur album que j'ai fait depuis très longtemps.
Ouais.
Je suis content vraiment d'avoir fait ce disque avec Nico, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a qui a fait tout ce qu'il fallait pour que ça soit un album de Benoît Blue.
Ah, ça, c'est un beau compliment à faire.
Ah oui, vraiment, il a tout fait pour que ce soit un album de moi, pas un album où il essayait de mettre ses trucs à lui en produisant. Non, il a fait un album Benoît Blue.
Mais je pense qu'il a dû écouter toute ta discographie en boucle plusieurs fois, et puis te voir sur scène, bien évidemment. Bah, bon, on connaît Nico, bien sûr, c'est un garçon qui a une culture musicale phénoménale.
C'est vrai.
Il a une connaissance, c'est un peu comme toi, on te donne un nom de type, tu nous ponds la rubrique Wikipédia complète.
On s'entend bien pour ça, Nico.
J'imagine.
Tous les deux, waouh. On y va.
Est-ce que vous vous amusez de temps en temps à faire des petits blind tests pour vous piéger entre amis, non?
Non, pas vraiment. Non, on ne peut pas dire ça parce que il fait ça avec ses musiciens, mais avec moi, ça ne marche jamais.
Benoît, c'était un plaisir vraiment à nouveau.
Je suis content que tu m'aies appelé, vraiment.
Écoute, là, je suis comblé. C'était un grand plaisir que cette interview en live. Et puis c'est bien mieux en live de toute façon. Je ne sais pas si tu es d'accord.
Oui, toujours. C'est comme ça, c'est improvisé. Et on ne sait pas ce qui va se passer.
Exactement. Résolument bleu, c'est le titre de Benoît Blueboy et les Tortilleurs. Merci Benoît. À bientôt.
Merci
sur la route.
Merci beaucoup, Marc. À bientôt.
Au revoir. Merci Benoît, encore un grand bonheur radio de ce moment que tu nous as offert pour cette interview en direct. Je précise, hein, c'est en direct dans Sweet Home Chicago sur le 666. Benoît Blueboy qu'on continue à écouter avec Jamais Parfait.
Toi, t'as toujours ce que tu voulais. Quand on veut plus, tu le jettes par terre. Je vois bien que t'es en colère. Et qu'encore une fois, tu vas tout nous foutre en l'air. Ouais. On n'est jamais assez parfait. On n'en fait jamais assez. On fait jamais ce qu'il faut qu'on en fasse. Trop ou pas assez. On n'est jamais parfait. Ni assez bon, ni bon à rien. Tendance à laisser aller, c'est juste une vie, plus ni moins. Là on le fait, là on le défait, on le refait puis on le redéfait. On croit faire tout ce qu'il vaut, mais quand on se couche dos à dos, il y a les soirs, même les efforts. Ça n'empêche jamais d'avoir faim. Je voudrais bien m'en éloigner, mais tous les jours, on se rapproche plus près du bord. Ça le fait pas, quand faut le faire là, on fait rien. Y'a les jours et comme la nuit, il restera rien pour le lendemain. Là je le sens moins en moins. Et toi qui me dis je fous jamais rien. On n'en fait jamais assez. On fait jamais ce qu'il faut. Qu'on en fasse trop ou pas assez. On n'est jamais parfait. Ni assez bon, ni bon à rien. On a tendance à laisser aller.
Un formidable album que ce Résolument Bleu, un disque que vous n'avez pas pu encore entendre parce qu'il sort, je crois, le 16 ou 17 octobre, c'est la semaine prochaine en tout cas. Pourrez-vous le procurer très très vite. On en écoute un dernier extrait, juste pour clôturer cette deuxième heure de Sweet Home Chicago. Voici Benoît Blueboy et les Tortilleurs avec Toute ma vie.
Chaque fois que t'es pas là, toute ma vie, à chaque fois que tu t'en vas, il pleut chez moi, suis demandé pourquoi tout ce qui m'arrive, ça je le vois que voilà. Toute ma vie, toute ma vie, à chaque fois tu t'en vas. Chaque fois où t'es pas là, tout s'écroule autour de moi. À chaque fois où tu t'en vas, j'ai si peur, je m'enferme de moi. À chaque fois que t'es plus là, je fais plus rien, même en moi. Je dors pas, j'ai peur, rêver, tu reviens à moi. Toute ma vie, je me suis demandé pourquoi faut que je m'attende à tout, à chaque fois que t'es plus là. Toute ma vie, toute ma vie, à chaque fois que t'es plus là, il pleut chez moi.
Superbe disque réalisé par Benoît Blueboy avec Nico Duportal, qui en est le réalisateur également. Stan Barpacha à la guitare, Alex Bertin à la basse, au sax baryton, sax ténor, clavier, Pascal Mucci à la batterie ou percussion, tous sont choristes, et également la participation de Matt Bowievil, de Denis Leblon au chœur sur un titre, et puis Elmore et Jimmy Jazz chœur et Hank Lab sur le titre Juste une cigarette. Voilà, c'est pour Tempo Records, millésime 2020, l'album résolument bleu de Benoît Blueboy qui sort dans les jours à venir. On poursuit avec une nouvelle fois le disque de la semaine. Il s'agit toujours de l'album Every Day of Your Life de Jimmy Johnson, un garçon dont on vient de parler avec Benoît dans cette interview, dont je te remercie encore. C'était vraiment un très très bon moment de radio. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Jimmy Johnson chez Delmark Records. Jimmy Johnson qui a enregistré pour pas mal de labels et puis qu'on connaît ici dans les années, depuis les années 70 grâce à un certain Jacques Morgantini. Jacques, où que tu sois, je te salue. Jimmy Johnson qui fête ses 92 ans au mois de novembre prochain et qui nous gratifie d'un superbe disque Every Day of Your Life. On va en écouter un nouvel extrait, Jimmy Johnson.